Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est pour ma première saison dans l'After. J'ai deux finales anglo-anglaises en Ligue des Champions. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs, j'invite tout le monde.
Je souhaite une seule chose. Soit l'Allemagne va au bout, soit elle se fait sortir avant.
Bonsoir.
Alors Johan, bon, t'as l'habitude maintenant.
Merci François. Et ça fera 12 ans sans match de Coupe du Monde.
Salut Zizou. Merci Zizou.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les drôles de dames, bien sûr, Fred, Polo, Julien et Johan. Tiens, Polo, ça tient encore cette année ou pas pour toi l'Allemagne, ton souhait pour l'Allemagne. Soit elle va au bout, soit elle sort dès le début.
Ouais.
Ça tient encore.
Ça tient.
Soit elle sort avant, il a dit.
Quoi, soit elle sort
avant. En fait, c'est en phase de groupe, c'est ouais, ça.
Bon, écoute, on souhaite le meilleur, mon cher Polo, hein, pour que tu nous accompagnes tout au long de l'été également. Je sais pas qui va sortir le premier parmi vous quatre, d'ailleurs.
Bah, moi, c'est soit ils vont au bout, soit ils sortent avant. Hein. Moi,
bah après, sortir tout de suite, c'est difficile de sortir en phase de poule. Hein.
Bah, avec ce format-là. Les meilleurs troisièmes qui sortent. Oh, attention, l'Italie.
Ce serait très italien de faire ça.
Hein. Ce serait très italien de faire ça. Enfin, c'est l'anglais qui parle.
la preuve lors du dernier Euro, Julien.
Bah, on fallait gagner à la fin.
Vas-y, Polo.
Dès que j'ai vu jouer l'Italie en 2021, j'ai annoncé sur les antennes que l'Italie serait championne d'Europe. C'était tellement évident.
Ah oui, évident.
C'était tellement au-dessus.
T'as un truc qu'on dit jamais avec les Anglais, c'est marrant ça.
Ben, j'aurais bien, mais j'ai moi qui aime lire des livres d'histoire, à chaque fois ils sont sortis. Donc,
il n'y a aucune évidence, évidemment.
Cette année, c'est la bonne année.
C'est la bonne, c'est important là. Julien vient de le dire. 21h04, RMC, on est le 10 juin, c'est ça? C'est la bonne année pour les
Three. Et Bellingham, ballon d'or.
C'est la bonne année parce qu'il y a plus Maguire peut-être aussi. Ce serait la bonne année pour Southgate également. Ce serait magnifique.
Avant qu'il s'en aille. T'imagines, Julien, pour toi, quel désaveu si le Silver Épaule anglais remportait le.
Non,
le
titre.
Non, je le souhaite.
Ce serait pas de sa faute alors, c'est ça? Ce serait pas grâce à lui.
Non, mais là, il faut bien qu'à un moment, quand même, il apprenne de ses erreurs et qu'enfin, avec le groupe qu'il a, il arrive à quelque chose, quoi. Donc, non, je leur dis aux Anglais, je les chauffe grave là depuis 15 jours. Donc c'est leur année.
Dans les douves de la Tour de Londres, mais Julien.
Dans les douves de la Tour de Londres.
Et je peux poser une question.
Vas-y, vas-y.
Un peu méchante à tous. S'il y a votre pays d'adoption contre la France, vous êtes avec qui?
Apollo, je sais, évidemment.
Moi, mes enfants, ils supportent la France. Donc déjà, je vais pas.
Ah oui, t'as réussi à les convaincre, les trois, de. D'accord, je sais pas comment t'as fait ça, mais bravo.
Bah c'est facile, l'Angleterre, comme on le dit, ils gagnent jamais rien. Donc de toute façon, c'était très
logique. Ah oui, d'accord, les enfants soutiennent l'équipe qui gagne, d'accord.
Et surtout la France, quoi.
T'as un France-Italie en finale, tu tiens qui?
Moi, je suis assez clair. J'ai pas de rapport.
Ça va faire polémique, cette histoire, hein, vous savez ça.
Non, mais j'ai pas de rapport émotif particulier avec l'équipe de France.
Ouais.
Depuis tout petit, on n'a jamais été très équipe de France non plus dans la famille. Donc
AGA et pour toi national. Voilà.
Moi, c'est Auxerre déjà, et après le reste, on verra.
Bon, Polo, je pose pas la question, on a la réponse, évidemment. Tu nous as raconté l'histoire de la dernière et drôle dame, la saison dernière, justement.
Mais c'est la faute d'une profession qui s'appelle la presse française, qui a été dégueulasse après le match de Séville 82.
Qui a fait des rappels à l'histoire absolument dégueulasse.
Raciste, dégueulasse. Et depuis ce jour-là, je suis passé côté allemand. C'est aussi simple que ça.
Je suis passé côté allemand. Pas isolé cette phrase, quand même.
Il y en a qui ont été rasés pour moins que ça.
Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, cette profession ne se remet jamais en cause par rapport à ce qu'elle écrit. J'ai beaucoup discuté avec des journalistes français qui ont écrit à l'époque. Il y en a même un qui est assez connu, je ne vais pas citer son nom, qui disait ouais, j'avais peut-être pris un peu trop de boulaouane à l'époque, etc. Mais il faut se rendre compte de ce qui a été écrit à l'époque. On ne ferait pas ça avec n'importe quel pays aujourd'hui. Il y a un truc bien spécifique.
Polo soutient l'Allemagne sur sa rancœur vis-à-vis de la presse française.
Exactement. Ça a toujours été ça. Cette profession a détruit mon rêve. Parce que j'étais comme tout le monde, l'équipe de France des années 80, c'est un truc formidable. Quand adolescent, tu vois, alors qu'on n'était rien, depuis 58, on était que dalle. Il n'y a que Saint-Etienne dans les années 70 qui revivait, etc. Il y a l'équipe de France avec Platoche, Gires et tout le monde qui débarque. Et j'ai vu ça. Putain, j'ai lu ça parce que j'ai eu la chance d'être dans une famille qui me forçait à lire beaucoup. Je lisais ça, c'était infect. Infect. Mais c'est ça, cette profession.
Chez toi, pour toi, Fred?
Bah, la France, la question se pose même pas.
Bon, bien sûr.
C'est...
Bah, si, elle se pose la question.
Non, mais
et moi, j'entendrais que me disent moi-même, j'ai vécu 30 ans en Espagne.
Bah, ouais,
mon cœur jamais... pour le football est espagnol.
Mais
pour moi, c'est pas un problème.
Non, parce que moi, ça commence comme Polo. Moi, c'est France-Allemagne à Séville. C'est ça me marquera, j'aime le foot à cause ou grâce.
Souvent un grand premier souvenir.
J'ai 12 ans et c'est en plus il y a plein de circonstances personnelles qui font que j'étais seul devant la télé ce soir-là et que je suis monté dans mon lit hébété ouais. et que je m'en suis jamais remis. Ce jour-là.
Ah, c'est donc ça.
Ben voilà, tu vois. Ce jour-là, j'ai compris que le football racontait la vie. Et qu'un match était le résumé de la vie où tu pouvais passer par toutes les émotions.
Des émotions de la vie.
Voilà, toutes les émotions sur un truc. Et c'est. J'étais déjà un très bon pronostiqueur parce que ma mère m'avait dit tu couches pas trop tard. Je dis non, t'inquiète pas, il n'y aura pas de prolongation. Et on est allé au tir au but. Donc, tu vois, j'avais 11 ans. Enfin, 12 ans, 12 ans.
Alors, quels seront les joueurs qui vont marquer les esprits dans cet Euro? Évidemment, là, c'est ce qu'on appelle des prédictions. En tout cas, ceux que vous voulez voir réussir ou que vous pensez réussir lors de ce mois de compétition à venir. Tiens, je commence avec toi, Julien. Quelle peut être l'attraction de l'équipe nationale anglaise?
Alors, j'ai choisi Kobbie Mainoo, le petit prodige de Manchester United. On en a parlé en introduction au début de l'émission parce que je pense sincèrement qu'il a aucune limite. Il vient d'avoir 19 ans, il a eu 19 ans au mois d'avril et il a fait 7 mois, on va dire, depuis qu'il est entré dans l'équipe au mois d'octobre. Exceptionnel pour son niveau dans une équipe à la dérive totale, quasiment, la plupart du temps. Un joueur fantastique qui a joué attaquant chez les jeunes, ailier, et puis là, qui a été maintenant, depuis quelques années, repositionné devant la défense, un milieu de terrain il est assez grand, en plus il fait 1m84, donc qui est capable d'avoir cette densité physique un petit peu, qui a aussi la technique d'un ancien attaquant, d'un ancien ailier dans les équipes de jeunes de Manchester United. Donc c'est quand même pas n'importe quoi pour pouvoir jouer chez les jeunes, ailier à Manchester United, il faut quand même se lever tôt et être très bon. Donc c'est pour ça qu'il a, pour moi, tout. Il est quelqu'un de très intelligent, qui a les pieds sur terre, qui est très très mûr, très mature, comme cette nouvelle génération de toute façon, Kylian Mbappé un petit peu, hein, qui sait très bien ce qu'elle veut très vite et qui fait tout pour y arriver. Donc je ne sais pas exactement quel temps de jeu il aura encore, on ne sait pas trop, parce que Sylvain Ripoll c'est Sylvain Ripoll, donc on ne sait pas exactement encore ce qu'on va voir, comment il va jouer, est-ce que c'est Bellingham et Rice avec Bellingham un peu plus bas, est-ce que Mainoo a un rôle à jouer quelque part dans ce milieu de terrain là, donc on ne sait pas encore, donc je ne sais pas exactement son temps de jeu, mais il a un talent exceptionnel et je pense qu'il sera dans cette équipe d'Angleterre pour les 15 années à venir.
Jimmy Ribois me dit qu'il va peut-être signer à Strasbourg.
Oui, bah oui, il espère, peut-être son frère. Peut-être son frère.
Kobbie Mainoo, c'est pour ça. Je joue au stade de la Mainoo, voilà, c'est ça.
Ah, pardon, j'ai pas.
C'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Johan, quel est le joueur attraction de la nationale?
Alors moi, j'ai un peu transformé le truc. C'est pas forcément une attraction, mais ça peut être un facteur X.
D'accord.
Parce qu'il le fameux
facteur X.
Il va pas commencer titulaire a priori, mais on l'a vu lors du dernier Euro qu'il y a des joueurs qui ne commencent pas titulaire, mais qui ont toute leur importance dans le déroulé de la compétition. Je pense à Federico Chiesa notamment et à Manuel Locatelli qui avait été très important dans la phase de groupe et également contre l'Autriche. Je pense à Davide Fratesi. J'y ai repensé hier en voyant son match et donc son
but,
contre la Bosnie, exactement. Il en est à 5 buts en 15 apparitions avec la sélection. Meilleur buteur depuis 2022 en sélection nationale. Avec l'Inter cette saison, il n'a pas beaucoup joué parce que c'est difficile de déloger Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barella. Enfin, surtout Mkhitaryan et Barella pour les postes de relayeur. Et en un peu plus de 900 minutes de jeu, il a marqué 6 buts et fait 3 passes décisives. C'est un joueur extrêmement décisif qui sent le but comme peu de milieux de terrain en Italie. C'est-à-dire qu'il est toujours à la retombée des ballons. Il sent bien les courses pour les appels ou contre-appels sur des centres, sur des passes en profondeur. C'est quelqu'un qui est très énergique, qui a un gros volume de course, donc il accompagne aussi souvent les actions offensives. C'est un joueur qui va t'amener à la fois donc, dans cet esprit d'être décisif, de marquer des buts ou d'être à l'avant-dernière passe ou à la dernière passe, mais aussi qui va t'amener un gros volume de jeu, de course, de pressing sans ballon. Donc c'est un joueur qui peut avoir toute son importance en cours de match, peut-être même dès le début, on ne sait jamais, il peut gagner sa place au cours de cet Euro. Donc Davide Fratesi qui... a sans doute un été très important parce que je doute qu'il ait envie de faire une deuxième saison comme ça à l'Inter avec aussi peu de temps de jeu. C'est un international, c'est un joueur qui pourrait jouer dans beaucoup de gros clubs italiens, sauf qu'à l'Inter il y a 3 monstres devant lui. L'Inter qui a pris Zielinski en plus du Napoli, donc ça fait beaucoup de monde pour jouer devant lui. Donc peut-être que grâce à un bon Euro, soit l'Inter va reconsidérer un petit peu sa position dans la hiérarchie des milieux de terrain, soit, pourquoi pas, il pourrait être amené à partir cet été et rejoindre un autre club, notamment par exemple italien, qui pourrait avoir envie d'un milieu de terrain relayeur de ce type-là. Beaucoup de projections, de courses vers l'avant, aussi important avec et sans ballon, même si ce n'est pas le plus grand technicien ou techniquement ce n'est pas le plus propre dans son exécution technique de différents gestes. Mais par contre, c'est un joueur qui, quand il est devant la surface, à l'inverse de pas mal d'attaquants italiens malheureusement, bah, il sent le but. Voilà. On l'a vu lors de ces matchs de préparation. Chiesa c'est toujours un peu délicat. Scamacca, c'est encore un peu délicat. Retegui, c'est pas toujours parfait. Et il y a d'autres joueurs offensifs où ils ont beaucoup plus de mal à trouver le cadre et à être décisifs qu'un milieu de terrain remplaçant de l'Italie.
Davide Fratesi pour Johan. Tiens, vous êtes nombreux à donner des noms sur le chat. Hein. Quel joueur sera l'attraction de cet Euro notamment? On parle de Xavi Simons, pourquoi pas, qui vient de marquer d'ailleurs avec les Pays-Bas là.
Bien sûr.
En match de prépa contre l'Islande. On parle de Frimpong peut-être aussi, mon cher Polo. Tu vas nous donner les tiens dans un instant. Fermín López aussi. Lamine Yamal. Attention à Lamine Yamal. Mm-hmm. Ça peut être l'explosion totale de Lamine Yamal sur le continent européen aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste? 2 minutes avant la pause. Polo, quels sont les joueurs que tu veux mettre en avant et qui pourrait marquer cet Euro chez toi en Allemagne?
Je rêve d'un duo de meneurs de jeu qui explose un peu à l'ancienne. C'est très rare d'avoir des sélections nationales qui ont deux meneurs de jeu, deux véritables numéro 10 qui peuvent faire exploser toutes les défenses. Alors évidemment, ça ne nous rajeunit pas si on pense à des vieilles sélections. Mais je pense que si l'Allemagne veut décrocher le titre à domicile, il faudra qu'on ait Wirtz et Moussiala qui s'entendent comme larrons en foire et qui explosent techniquement parlant. Le talent, c'est pas la question. Est-ce qu'ils sont capables de jouer ensemble, de se répartir les rôles, etc. Je pense que ce sera un facteur. Et qu'on ait de l'appétence pour la sélection allemande ou pas, quand tu as deux talents comme Wirtz et Moussiala, même s'ils sont jeunes, parce qu'ils ont tous les deux 21 ans, il ne faut pas l'oublier, tu as juste envie de dire, bah, donnez-leur le ballon, et puis après, on voit ce que fait le reste de l'équipe, on s'en fiche. Quoi. Donc voilà, ce sera Wirtz et Moussiala pour moi.
On a tous envie de voir ça, effectivement. Wirtz, Moussiala, ce sera la grosse
attente. Deux talents générationnels avec des mêmes zones de jeu, même s'ils peuvent différer un petit peu. C'est rare que ça fonctionne. Si je prends l'Italie par exemple, deux talents générationnels comme ça au poste de 10, c'était Totti et Del Piero. Oui. Et ben c'était très compliqué de les faire jouer ensemble.
Oui, c'est très compliqué.
Comme à une époque, genre Kev Zidane aussi, à une époque, il y a eu des débats de genre Kev Zidane.
Julien a raison, Gérard Lampard aussi.
Gérard Lampard, oui.
C'est pas des 10.
Oui, il a raison.
Non, mais c'est des Anglais.
Oui, mais c'est des grands joueurs.
Non, on n'a pas parlé
des 10. C'est des Anglais, c'est pas des 10. Imagine bien.
Non, mais on parle de joueurs qui jouaient dans le même poste.
Dans les mêmes zones. C'était compliqué. Pas forcément complémentaires, exactement. Mon cher Fredo.
Alors c'est vrai que j'aurais pu parler de Lamine Yamal ou même de Grimaldo, d'Alex Grimaldo, mais je pense, ça fait longtemps que je voulais parler de lui.
Grimaldo hors chapeau, je crois, hein, les amis, hein, des latéraux, hein, il semble. Non.
Oui, alors c'est pourtant je l'ai proposé.
Grimaldo.
J'ai écouté, il est descendu. Enfin bref. Chapeau après chapeau.
Il a terminé quatrième dans le quatrième chapeau. Non, alors moi je vais parler de Nico Williams, le frère de.
Il était quand même devant Miguel Gutiérrez de Fred.
Oui, ça me.
Heureusement quand même.
Alors je vais dire un truc parce qu'il y a eu plein de messages par rapport à Carvajal, mais Carvajal il est vieux donc il faut se rappeler. Les gens oublient le principe des chapeaux qui est tu es directeur sportif, tu dois sélectionner.
Je
le
dis, ce principe il est nul, ce principe-là, parce que ça crée pas de débat en réalité sur la saison réalisée, sur le niveau.
Mais bon,
peu importe. Alors,
je vais vous parler de
Nico Williams.
Oui, Nico Williams, il va avoir 22 ans. Juste à la fin de l'Euro, donc en juillet, c'est vraiment, alors déjà la saison dernière il était très bien, mais c'est vraiment la saison de son explosion en club à l'Athletic Club de Bilbao. Donc c'est le petit frère de Nico, d'Iñaki Williams. Ils ont 8 ans de différence quand même. Iñaki Williams qui joue avec le Ghana, et Nico Williams qui joue avec la sélection espagnole. Rappelez-vous, il avait été sélectionné par Luis Enrique pour le Mondial Qatari, et son enfin Il est vraiment devenu un joueur de premier plan en Espagne cette saison, même si déjà l'an dernier on voyait que c'était un joueur qui était important. Le Barça commence à s'intéresser à lui, vraiment beaucoup. Et ce choix est lié à mon intervention sur le nouveau style de l'Espagne. Parce que c'est parce qu'il y a des joueurs comme Nico Williams, ces ailiers un peu à l'ancienne qui dribblent, qui font des centres, qui mettent le feu dans les défenses, que Nico Williams peut être important dans une équipe d'Espagne qui va jouer comme ça. Elle joue comme ça parce qu'il y a un joueur comme Nico Williams, et de l'autre côté il y a Lamine Yamal. Donc il a une énergie folle, il a cette insouciance qui fait du bien, parce que je pense quand même encore qu'aujourd'hui, quand tu veux être un très grand joueur de foot, il faut avoir une partie d'insouciance, une partie de jeu, une partie de plaisir dans ton jeu. C'est-à-dire que si tu es trop cérébral, tu es moins bon, je pense. Enfin, après, c'est ma vision du foot, hein, peut-être que les autres. Mais j'aime un peu encore un petit un peu d'insouciance. Joueurs qui sont très conscients de ce qu'ils sont, mais qui gardent une petite part d'insouciance. Et il a ça. Il a encore ça, Nico Williams, du fait de sa jeunesse. Et je pense qu'il est. C'est un joueur assez spectaculaire de par le. Bah, sa vitesse, son dribble, son volume de jeu, voilà, c'est quelqu'un qu'on voit quand il est sur le terrain. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, ça se voit, et je pense qu'il va marquer les esprits Même si l'Espagne va pas très loin, les gens vont se dire ah tiens, le petit frère il est pas mauvais quoi. Donc je mise une petite pièce sur Nico Williams.
Avant qu'il prolonge son contrat à Bilbao, il y avait pas mal de grands clubs européens qui étaient sur lui, qui espéraient le récupérer libre à la fin de son contrat, et des très très gros clubs européens.
Alors vous savez qu'il y a des difficultés pour prendre un joueur à Bilbao, c'est qu'ils sont très très bien payés.
Oui, tu l'avais dit.
Ils sont très bien payés.
Ouais, mais là, on parle de clubs qui peuvent donner un très bon salaire.
Oui, non, mais c'est aussi un truc parce qu'ils sont très bien payés. Parce que déjà, il y a des avantages fiscaux, parce que le Pays Basque c'est une zone fiscale un peu différente du reste de l'Espagne, de par son autonomie. Et aussi parce que. Alors, vous savez qu'il est, il n'est pas. Il peut jouer avec l'Athletic Club de Bilbao. Il n'est pas né à Bilbao comme son frère Iñaki. Il est né à Pamplune, en Navarre, qui n'est pas le Pays Basque, c'est la Navarre, mais qui est considéré dans l'idéologie basque comme faisant partie de ce qu'on appelle Escualeria, c'est-à-dire le grand Pays Basque. Donc c'est la raison pour laquelle il peut jouer dans cette équipe.
Nico Williams pour toi, le duo Vias-Moussiala pour Polo, David Efratesi pour Johan et Kobe Mainoo pour Julien. Tiens, un autre adversaire de l'équipe de France joue ce soir un match de préparation, son dernier, la Pologne contre la Turquie qui mène 1-0. Alors, on a appris il y a quelques jours la blessure d'Arkadiusz Milik, forfait pour l'Euro, blessé à l'entraînement. Ce soir, le buteur de la sélection polonaise, en l'occurrence Karol Świderski, a marqué. Il s'est blessé en célébrant le but, tout simplement.
C'est bas,
donc on va attendre justement la durée d'indisponibilité pour lui. Il a été remplacé par Christophe Piatek. En tout cas, ça ferait deux coups durs en quelques heures pour la sélection polonaise.
Et Pays-Bas.
Joueur de Hellas Vérone, d'ailleurs.
Hellas Vérone, exactement, qui était à Charlotte en MLS. Et du côté des Pays-Bas, Koopmeiners s'est blessé à l'échauffement.
Ou important.
Ouais. On ne sait pas encore. Il y aura des examens demain, blessure musculaire. Et donc, il ne dispute pas le match des Pays-Bas.
Julien, tu disais ?
Donc, dans l'équipe de République Tchèque, dans l'effectif, Sadilek s'est blessé en faisant du vélo, en tombant de vélo samedi. Et il est forfait pour l'Euro. C'est
incroyable. C'est ballot, quand même. On rappelle la fameuse accréditation qui vient taper la rétine de Steve Marley, forfait également. Voilà.
Canizares
aussi.
Ah, alors ça, oui, ça c'est. Ah, alors il y a une légende autour
c'est pas,
de ça.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a une légende.
Tu l'as fait en 30 secondes ?
Bah, alors, en fait, c'est juste avant le mondial 2002, Santi Canizares, qui est le gardien titulaire de l'Espagne, s'apprête à. Ils sont déjà en concentration, enfin en mise au vert avec la sélection, s'apprête à se parfumer. Voilà. Et d'après ce qu'il raconte, le flacon lui échappe des mains. Il essaye d'amortir avec son pied et il se coupe un tendon. Voilà.
C'est déjà arrivé à Polo, je crois, qui met beaucoup de parfums, vous le savez, qui a une passion pour les parfums, mon cher.
Alors, il y a eu plein de théories, comme quoi il serait allé faire de la moto et qui se serait.
Polo, c'est l'eau de Cologne, Polo.
C'est ça. L'eau de Cologne. Oui.
Dans le rire de Polo, il est lourd, Jamin. La troisième minute de la soirée, elle est italienne, elle est pour Johan Crochet. On envoie la musique, Polo.
La compagnia Vasco Rossi.
Mais pourquoi tous les Italiens ont cette voix de crooner? On en parlait l'autre jour, c'est quand même incroyable. Paolo Conte à Umberto Tozzi.
Pas tous, mais c'est un trait musical, clairement. Une identité musicale. On va parler des. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre très bien placé dans le classement des albums, des singles les plus vendus en 2007. Et pourquoi 2007 parce que les U17, donc la génération 2007 et 2008, a remporté l'Euro des moins de 17 ans du côté de l'Italie avec un très beau parcours, mon cher Julien, élimination de l'Angleterre, vainqueur du Portugal en finale et un match vraiment net en finale contre le Portugal. Il y a beaucoup de joueurs intéressants, on va en citer quelques-uns, Camarda, Liberali, Longoni, le gardien de l'AC Milan, Kama, l'arrière-gauche également de la Roma. Coletta, le milieu de terrain également de la Roma, Natali qui a d'ailleurs quitté le pays de Fred Hermel, le FC Barcelone, pour aller chez Polo au Bayer Leverkusen, fils d'un ancien défenseur d'ailleurs qui joue en Serie A en Italie. Et c'est bien une énième démonstration après le titre gagné lors de l'Euro des moins de 19 ans et la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, tout ça lors des 12 derniers mois, que l'Italie s'est formée des joueurs. Il y a des jeunes joueurs qui sont très intéressants. Mais le problème en Italie, c'est toujours au niveau des clubs professionnels, des entraîneurs des clubs professionnels, des présidents, des directeurs sportifs. Quand ils arrêteront de considérer les jeunes comme des variables d'ajustement de bilan financier et qu'ils se décideront à vraiment les utiliser, à leur faire confiance, à les faire progresser, et ben non seulement leurs clubs iront mieux financièrement, mais la sélection nationale aura aussi un plus gros réservoir.
Voilà pour la minute de Johan. Vous restez avec nous dans un instant. Tiens, séquence histoire, nostalgie. Quel est le souvenir le plus marquant des drôles d'âme? Ou alors le souvenir de leur pays, en l'occurrence Italie, Espagne, Angleterre ou Allemagne, dans un euro bien sûr. Génération After avec Polo, Johan, Fred et Julien. On revient dans quelques secondes sur RMC. À tout de suite.